19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous, c'est les informés, durant une heure, nous sommes ensemble jusqu'à 20h précisément. Merci d'être avec nous et nous on est le week-end risque d'être rouge puisqu'il est départ évidemment de la seconde semaine qui vous concerne de la Toussaint, les vacances. Eh bien profitez-en bien si vous êtes en vacances et si vous êtes travaillé, eh bien on vous souhaite bon courage puisqu'on est là pour vous accompagner. Au sommaire, au menu de ce programme, eh bien nous reviendrons avec un invité exceptionnel, inédit, Khaled Rarini. Souvenez-vous, il avait fait cette déclaration. Si le journalisme est un crime, alors je suis un criminel dangereux. Il a été emprisonné 11 mois. Il a dit oui, pour revenir évidemment sur tout ce qu'il a vécu de façon exceptionnelle sur l'antenne de Beurre FM dans Les Informés. Ensuite, nous nous intéresserons au face-à-face. Le face-à-face aujourd'hui réunit les propos de Mélenchon sur Éric Zemmour, accusé de sombrer dans l'antisémitisme. On reviendra sur les propos polémiques. Ensuite, après, autre propos polémique, c'est Yannick Jadot qui se dit favorable à la suppression de l'abattage rituel. Et il a très vite nuancé ses propos. Mais bon, le mal est fait. Eh bien, on reviendra sur cela. C'était l'interview tout à l'heure, ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin. Voilà, et ensuite, 01 53 48 3000, c'est le standard qui sera ouvert pour vous, justement, pour parler de l'abattage rituel et pour parler des propos de Jean-Luc Mélenchon. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'invité actu, c'est parti.
Les informés, l'interview,
nous sommes en direct depuis Alger avec Khaled Rarini. Bonjour mon cher Khaled.
Oui, bonjour Adil et bonjour à tous.
Vous savez que c'est un grand plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Beurre FM, puisque effectivement, je vais le dire à nos auditeurs, on avait échangé justement, je voulais vous mettre à l'honneur ce soir, c'était tout à fait normal, vous mettre à l'honneur parce que vous nous avez accompagnés durant le Hirak, vous nous avez accompagnés aussi durant toute l'actualité depuis l'Algérie. Et vous savez que c'est un grand plaisir de vous retrouver, Khaled Rarini. D'abord, quel mot vous vient à l'esprit pour glisser peut-être un message à nos auditeurs qui vous écoutent en France et pas que, partout dans le monde? Vous savez, quand on vous a annoncé, j'ai eu plein de messages, justement, de soutien. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Khaled Rarini?
Je veux d'abord saluer vos auditeurs et surtout les remercier et leur dire que dans l'épreuve que j'ai traversée, la solidarité est très importante et c'est aussi grâce à eux que je suis libre, parce que je suis convaincu et persuadé que c'est grâce au soutien des gens, à leur aide, à leur présence et à leur solidarité que nous avons été libérés. Je leur dis merci du fond du cœur.
Khaled Rarini, vous êtes correspondant de TV5 Monde, de CNews également. Vous avez été régulièrement sur notre antenne, sur Beurre FM. On va revenir sur ce que vous avez vécu. Justement, aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes aussi le fondateur de la Casbah Tribune. Évidemment, et c'est la raison principale pour laquelle vous avez été emprisonné, puisque vous avez été muselé en quelque sorte. Vous avez fait une déclaration, j'aimerais revenir là-dessus. Si le journalisme est un crime, alors je suis un criminel dangereux. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, Khaled Rarini?
Oui, alors j'ai choisi un peu cette expression pendant mon premier procès, en première instance, parce que je savais qu'il fallait toujours terminer le procès avec un dernier mot. C'est la tradition dans la justice algérienne. Et j'avais compris tout au long de mon procès que c'était le journalisme qui était en jugement, que c'était mon travail de journaliste qui posait problème. Pourquoi avoir écrit ça, pourquoi avoir dit ça, pourquoi avoir couvert ça, même concernant les slogans qui étaient utilisés pendant les manifestations de Hirak. Et je voulais tout simplement montrer que je n'étais pas un criminel et que le journalisme n'est pas un crime. Mais que si c'en était un, alors je suis fier d'être un criminel et même très dangereux.
Alors, Khaled Rarini, vous savez que sur Beurre FM, sur l'antenne de Beurre FM, on vous a évidemment, je ne sais pas si les messages vous sont parvenus, mais il y a eu une forte mobilisation à la fois de l'équipe, à la fois des auditeurs également. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit après 11 mois d'incarcération, mon cher Khaled?
Bon, moi je vais très bien, j'ai presque envie de dire je vais très bien grâce à vous. Vous savez qu'en prison, pour des raisons sanitaires et certainement pour des raisons politiques, nous étions privés de journaux, privés de lettres. Je n'ai commencé à recevoir les lettres qu'à la fin de ma détention, parce que je savais très bien que j'en recevais des milliers à la prison de Coléa, donc on commençait à en me donner à la fin. Pas de journaux, donc mon seul contact avec le monde extérieur, c'était évidemment les avocats, qui étaient très nombreux à venir me voir et qui me parlaient de cette solidarité et de ce soutien de mes confrères, que ce soit en Algérie et dans le monde. Et c'est grâce à ce soutien que nous avons pu tenir, que nous avons pu résister. Et je disais même à mes avocats, contrairement à mes juges, moi, je dors bien la nuit. D'abord parce que je sais que je suis innocent et parce qu'il y a tellement de gens, des milliers de gens, qui me soutiennent à l'extérieur de cette prison.
Je voudrais rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent partout en France, justement, vous avez été arrêté le 7 mars 2020 avant d'être inculpé 3 jours plus tard pour atteinte à l'intégrité du territoire national et d'attroupement non armé, c'était durant le Hirak. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes senti découragé, vous vous êtes senti laissé emporter par la déprime? Est-ce qu'à un moment, vous alliez vous vider de quelque chose lorsque vous avez vécu, lorsque vous étiez incarcéré, mon cher Khaled? J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit à ce moment-là.
À aucun moment je n'ai été pris par la déprime ni par le désespoir. Et j'ai même envie de dire heureusement, parce que si on est déprimé ou si on est pris par le désespoir en prison, c'est le début de la descente aux enfers et beaucoup de gens d'ailleurs cèdent à cela et supportent mal la prison et peuvent avoir une dépression et passer son temps à pleurer ou à se lamenter sur son sort. Comme a dit Nazim Hikmet, j'étais en prison mais je n'ai pas porté la prison en moi grâce aux gens qui étaient à mes côtés, que ce soit à l'intérieur de la prison ou même à l'extérieur, par ce soutien exceptionnel des gens. C'est vrai que je ne pensais pas que j'allais rester autant de temps en prison. Je pensais que ça allait durer quelques jours, voire quelques semaines. Après, je me suis dit que c'est lors de mon procès que j'allais sortir. Après, je me suis dit que c'est lors de mon procès en appel. Mais comme j'ai vu que l'acharnement se poursuivait, que ce soit politique, sécuritaire ou judiciaire, je me suis dit, bon, il faut attendre son jour de sortie avec calme et sérénité. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu tenir grâce à la solidarité et au soutien qui sont organisés autour de moi, que ce soit celui de mes compatriotes, que ce soit celui des journalistes algériens étrangers, et aussi grâce au soutien des organisations de défense des droits de l'homme qui ont été à mes côtés du début jusqu'à la fin, comme RSF, Amnesty International et bien d'autres.
Dites-moi, Khaled Drarini, est-ce que vous attendiez une telle mobilisation aussi forte, aussi importante, Khaled?
Non. Tout simplement non. D'ailleurs, j'ai été épaté par cette mobilisation qui avait commencé au lendemain de mon arrestation.
Ouais. En France, il n'y a pas un canard qui n'a pas traité de cette information, qui n'a pas parlé de vous. Tous les canards, toute la presse a parlé de vous.
J'ai été arrêté le 7 mars à Alger et le 8 mars, lors de notre présentation devant le procureur au tribunal d'Alger, en montant les escaliers pour aller voir ce procureur aux ordres, qui avait certainement déjà décidé de mon sort, j'entendais les gens dehors crier mon nom, et ça m'avait totalement bouleversé et en même temps remonté le moral, parce que lorsqu'on est face à un procureur de la République, on se sent moins seul lorsque déjà on est entouré par une trentaine d'avocats et quand on sait que des centaines de gens à l'extérieur crient votre nom et vous soutiennent. Et c'était la même chose en prison. Vous savez que, comme je vous ai dit, nous étions coupés du monde, et donc le seul moyen d'information, c'était les avocats. Ouais. C'est tellement pas le journal de 20h de la chaîne publique qui n'avait pas parlé de vous. Mmh. Et ce sont des avocats qui essayaient tant bien mal de me décrire ce soutien, mais il aura fallu que je sorte pour voir quelle était l'ampleur, effectivement, de ce soutien.
Et vous n'aviez pas mesuré cette ampleur, Khaled Drarini?
Absolument pas. Malgré la description des avocats, il fallait que je sorte pour voir cette ampleur, que ce soit en Algérie, dans le monde. Les journaux algériens, pas beaucoup, vous savez, parce qu'ils sont muselés, à part Liberté et Lointaine, mais aussi en France, en Europe, aux États-Unis, les ONG. Et ça, on ne le voit pas et on ne le ressent pas lorsqu'on est en France.
Khaled Drarini, 11 mois d'incarcération, est-ce que ça vous a paru long?
Ça dépendait des jours. J'avais un cahier sur moi sur lequel j'écrivais toujours premier jour, deuxième jour, troisième jour, où je racontais un peu mon quotidien de la prison, un quotidien qui se ressemblait beaucoup d'un jour à un autre, vous savez. Mmh. Et j'ai arrêté d'écrire le nombre des jours lors de ma première condamnation à 3 ans, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas que j'allais être condamné à 3 ans. J'étais sûr de sortir ou d'avoir une petite condamnation, d'être acquitté. C'est là où j'ai cessé d'écrire, mais ça ne veut pas dire que j'étais déprimé ou démoralisé. Mmh. Mais je cessais à ce moment-là de croire en la justice algérienne. Lorsque j'ai été condamné à 3 ans de prison ferme pour avoir fait des tuts de manifestations, de rassemblements, mais à aucun moment je n'ai été pris par le désespoir ni par la défaite.
Justement, à quoi ressemblait ce quotidien, Khaled Drarini? Sans rentrer dans le détail, bien sûr.
Bien sûr, je n'étais pas traité comme un détenu de droit commun. J'étais traité comme un détenu politique. Ça veut dire que je n'avais pas accès à tous les détenus. J'étais un peu mis à l'écart dans un quartier spécial qui s'appelait le 18B, dans lequel se trouvaient quelques détenus de droit commun, mais qui étaient très éloignés de nous. Donc j'étais tout le temps escorté par un gardien lors de mes déplacements dans la prison, que ce soit pour aller chez l'avocat ou à l'infirmerie ou même pour aller dans la cour, puisque nous avions droit à une promenade 2 fois par jour, 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. En fait, votre meilleur compagnon en prison, c'est le livre. Et moi, grâce à cette épreuve, le seul avantage que j'en ai tiré, c'est que j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres, parfois même des classiques que je n'ai jamais lus et que j'avais même un peu honte de lire tardivement en prison. Bien sûr, il y a la télévision qui est obligatoire, la chaîne publique qui est considérée pour moi comme une épreuve pire que la prison, que de le regarder, mais qu'on est obligé de voir pour avoir un peu d'informations et pour être informé sur la situation qui existe dans le pays. Donc nous attendions avec impatience le fameux journal de 20h. La journée en prison se termine à 17h, parce que la prison ferme ses portes à 17h, et donc il faut après tenir son mal en patience jusqu'au lendemain, réveil à 8h. Et c'était comme ça tous les jours pendant presque 350 jours.
On vous nourrissait suffisamment? Vous étiez respecté à ce niveau-là? Est-ce que vous aviez des repas? Évidemment, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je vous pose la question, Khaled Drarini.
En fait, c'est-à-dire que la question de l'alimentation en prison, elle est extrêmement importante. Il faut que vous sachiez que nous étions privés de couffins parce que c'était la période du Covid-19. Donc pendant mes 11 mois de détention, je n'ai pas eu droit à avoir un couffin de la famille, ce qu'on appelle le panier qu'on vous ramène tous les 15 jours. Par contre, pour ce qui est de la nourriture de la prison, en fait, ça n'a jamais été une priorité pour moi. Pour certains détenus, c'était extrêmement important, mais pas pour moi. Bon, ce n'est pas la nourriture d'un hôtel 5 étoiles, c'est quasiment la même nourriture qui se répète chaque jour. Alors, un jour, c'est lentilles, un jour, c'est petits pois, un jour, c'est des haricots, le vendredi, c'était couscous. Ce n'était pas bon, mais ce n'était pas dégueulasse. Mais à un certain moment, on s'habitue à la nourriture de la prison, parce que, comme on dit, si on ne mange pas, on meurt de faim. Donc, j'étais quasiment obligé de manger ça. Ça s'est bien sûr remarqué sur mon état de santé, puisque j'avais perdu quasiment 15 kilos lors de ma détention. Mais quand on est en prison pour ses idées, pour ses convictions, pour ses principes, on ne met pas la nourriture parmi ses revendications, ni parmi ses besoins.
Et puis l'immense joie et ce soulagement après votre libération ce fameux 19 février de la prison de Coléa à l'ouest d'Alger. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon justement de ces 11 mois de détention, Khaled?
D'abord, en parlant de ce fameux 19 février, moi je ne m'attendais pas à être libéré parce que les autorités algériennes avaient déjà libéré des vagues de détenus politiques et d'opinion, et je n'en faisais pas partie, comme c'était le cas le 2 juillet 2020, rappelez-vous, lorsqu'on a libéré Karim Tabou, Samir Belarbi, exact, et Amir Aboulawi. Donc je ne m'attendais pas vraiment trop à une libération, je ne mettais pas beaucoup d'espoir et d'espérance dans le discours du président le 18 février, jusqu'à ce que ce fameux 19 février, on vienne me dire « tu es libérable ». Qu'est-ce qu'on en tire C'est-à-dire qu'en sortant de la prison, on m'avait posé la question et j'avais dit « le combat continue ». En tant que journaliste, et j'ai été mis en prison en tant que journaliste, mon combat ne va pas s'arrêter pour un journalisme libre et de qualité en Algérie. Mon combat ne va pas s'arrêter pour le respect de la liberté de la presse.
Donc vous êtes
la liberté des journalistes.
Exactement. Donc vous êtes un peu comme moi. Moi, j'ai tendance à dire on ne lâche rien. Donc vous ne lâchez rien.
Non, je n'ai jamais rien lâché. Je n'ai pas lâché même quand j'étais en prison et je ne lâcherai pas même en sortant de prison. Je continuerai, Adil, à me battre pour mes confrères algériens et maghrébins qui sont en prison. Et c'est mon combat en tant que journaliste algérien. La prison n'a fait que renforcer mes convictions.
On vous a collé justement ce beau message. Vous êtes désormais le symbole de la liberté d'expression en Algérie.
J'espère être un journaliste algérien qui va se battre avec des résultats et qui va obtenir des résultats pour qu'en Algérie, les autorités comprennent enfin qu'on ne peut pas bâtir un État moderne et un État de droit sans respecter la liberté de la presse et sans respecter le travail de journaliste. C'est mon combat et c'est celui de mes confrères et de mes consoeurs et je continuerai à le mener à leur côté.
Dernière question, mon cher Khaled Rarini. Kasbah Tribune, est-ce que ça continue? Vous en êtes le fondateur, votre site d'information.
Évidemment que ça continue. D'ailleurs, vous avez beaucoup de chance en France de pouvoir accéder à ce site, puisque les lecteurs algériens n'ont pas cette chance. Kasbah Tribune est un site bloqué par les autorités depuis le mois de décembre 2020. D'ailleurs, j'étais en détention lorsque le site a été bloqué, et ce n'est pas le seul à l'être. Cela, en fait, ne fait que renforcer notre volonté et notre désir d'aller vers une presse libre et indépendante en Algérie. Les Algériens ont besoin
d'être
informés en toute honnêteté.
Khaled, je vais vous retenir juste encore une minute, juste après la pub. Restez avec moi, on vous retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Il est 19h24 et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La pub m'a contraint évidemment. Khaled Rarini, vous êtes avec nous, vous êtes journaliste, fondateur de la Kasbah Tribune. Plus que jamais, vous venez de le dire il y a quelques minutes avant de lancer la pub. Vous êtes aussi le correspondant de TV5 Monde et d'autres médias français dont CNews. Vous intervenez aussi régulièrement chez nous sur Beurre FM. Khaled Rarini, vous disiez plus que jamais, Kasbah Tribune va vivre et continue à vivre et à exister. On est d'accord Khaled Rarini?
Oui, bien sûr. Kasbah Tribune est un média qui informe les Algériens comme beaucoup d'autres médias indépendants. Il continuera à travailler malgré les difficultés, car les Algériens ont plus que jamais besoin de médias indépendants au moment où, malheureusement, tous les médias sont en train de perdre leur indépendance et d'être noyés dans cet océan de nouveaux sites électroniques qu'on est en train de créer justement pour tuer le journalisme en Algérie.
Est-ce que vous vous sentez menacé, Khaled Rarini?
Non, pas plus que les autres, pas plus qu'avant. Je suis toujours en liberté provisoire, dois-je vous le rappeler.
Oui.
Mon troisième procès était prévu pour le 23 septembre. Il a été reporté au 2 décembre. Donc j'attends mon nouveau procès avec sérénité, après l'acceptation de ma demande de cassation par la Cour suprême, qui a jugé illégale ma condamnation à 2 ans de prison. Donc je suis serein. Et c'est dans cette sérénité que je continue à exercer mon travail de journaliste.
Quels sont vos projets à court, moyen terme, mon cher Khaled? Ce sera ma dernière question. Et finir et clore donc cette interview inédite avec vous.
Pour le moment, mon projet, c'est celui d'être à côté de mes confrères et de mes consoeurs ici en Algérie déjà pour obtenir la libération de nos confrères en prison. Alaa Kalash, comme vous le savez, a passé 6 mois de prison ferme pour avoir exercé son travail de journaliste. Il y a encore 3 journalistes en prison en Algérie aujourd'hui. Mohamed Boulouch, Hassan Bourras et Mesrour Jennah. Des dizaines d'autres sont toujours poursuivis judiciairement ou sous contrôle judiciaire, comme Ihsan Al-Qadi, comme Mostafa Benjamin de Al-Naba. Il faut rester unis, il faut défendre nos confrères et défendre cette profession, parce que notre pays et nos compatriotes ont besoin d'une presse libre et indépendante.
Un mot pour celles et ceux qui vous écoutent, même si vous l'avez dit en tout début de cette interview, mais pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre.
aucun mot ne peut vraiment montrer et décrire ma gratitude pour tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont soutenu, qu'ils soient en Algérie, en France ou à l'étranger, aucun mot, à part bien sûr le mot merci, pour toutes ces personnes-là, sans exception, ma gratitude est éternelle.
Eh bien écoutez, un grand merci à vous. Un grand merci Khaled Drarini, mon cher, évidemment, confrère. On est très heureux de vous retrouver parmi nous, très heureux aussi de voir que les choses se portent bien, très heureux aussi de voir que vous avez été emporté, galvanisé par cette mobilisation. J'en suis ravi, évidemment, et on ne lâche rien, mon cher Khaled Drarini, c'est bien ça?
Tout à fait, on ne lâche rien.
Ne lâchons rien, eh bien, au plaisir de vous retrouver sur l'antenne des Informés sur Beur FM et sur Beur FM. Et bon courage à vous, Khaled Drarini, et grand merci d'avoir accepté donc cette interview inédite et de nous avoir dévoilé, évidemment, les coulisses de vos 11 mois de détention. Merci, Khaled Drarini.
Merci, à bientôt.
À très bientôt. 19h27, le face-à-face.
Les Informés. Le face-à-face.
Le face-à-face. Le face-à-face avant de retrouver tout simplement Michel Taube, 19h30 et le Quoi de Neuf. On accueille une toute nouvelle parmi nous. Elle est élue sur Brétigny, sur Orne. Elle sourit déjà, elle a la patate. Elle s'appelle Sabrina Nouri. Elle représente la France Insoumise. Bonjour Sabrina.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices.
Heureux.
Très heureuse de vous. En tout cas, l'accueil a été très chaleureux et donc je vous en remercie.
Tant mieux. Face à vous, Jean-Claude Beaujour, celui que je ne présente même plus. Avocat, bonsoir, mon cher maître.
Bonsoir à vous, bonsoir à l'ensemble de nos auditeurs.
À vos côtés, un éditorialiste aussi impliqué dans la géopolitique, Amel Chriot, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Tout va bien?
Oui, très bien.
Alors, madame et messieurs, tout de suite nous allons entamer, avant de retrouver les auditeurs, 0153483000. Est-ce que tu peux me retrouver, je vais dire au réalisateur de me retrouver la vidéo de Mélenchon, pardonnez-moi, de Jadot, chez Bourdin, où il fait la déclaration sur l'abattage rituel. Je voudrais diffuser cet extrait et on va le diffuser parce que c'est quand même incroyable. On va démarrer ça, ce premier sujet. Yannick Jadot, qui se dit favorable à la suppression de l'abattage rituel. Il s'est rendu compte, ça a fait le buzz sur Internet. Il s'est fait descendre par tout le monde avant de nuancer ses propos. Alors, le candidat écologique, est-ce qu'il s'était calculé? Est-ce qu'il a testé quelque chose? Est-ce qu'il a voulu lancer un truc, puis se dire, est-ce que ça va prendre ou pas? Sabrina Nouri, il s'est vautré?
Écoutez, déjà, je ne sais pas s'il connaît son dossier. Déjà, premièrement, je ne sais pas si vraiment... parce qu'on a l'impression que quand M. Bourdin lui a posé la question, il a répondu absolument du tac au tac. C'est juste...
Tac au tac. Mais on va l'écouter l'extrait.
Alors, on l'écoute l'extrait, après je vais...
Non, mais allez-y, finissez.
Alors, bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'abattage rituel, déjà, ça représente combien en France? Ça représente 0,1% de l'abattage rituel. La problématique dans ce sujet, c'est pas l'abattage rituel, c'est l'abattage industriel. On n'arrête pas de le répéter. Donc, au niveau écologique, puisque c'est le candidat des écologistes, on a un réel problème avec le bien-être animal pendant leur vie, parce qu'on sait très bien qu'au final, il y a une finalité de décès, de mort. Donc là où il faut vraiment acter et pointer du doigt, c'est vraiment le fait que les industriels maltraitent les animaux pendant toute leur vie. Donc ça c'est un sujet. Alors dire que non, il est contre l'abattage rituel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Et qu'est-ce qu'on fait de l'abattage industriel? Elle est là la vraie question.
Et dit qu'aucune tradition justifie de faire souffrir les animaux. Bon, je sais pas ce qu'il a voulu entendre. Maître Beaujour.
Oui, moi je pense qu'au cours de cette campagne, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, à commencer par Monsieur Jadot, qui ont comme ça des mesurettes. On ne fait pas une campagne présidentielle à partir de mesurettes, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est pour ou pourquoi est-ce qu'il est contre. Moi, je vais vous dire que ce qui importe, c'est que les animaux ne souffrent pas. Ce qui importe, c'est que les pratiques soient faites dans des conditions d'hygiène et de sécurité qui ne mettent pas en jeu la vie et la santé de nos concitoyens. Pour moi, c'est cela qui est important. Donc, sans être un spécialiste du sujet, et je suis encore moins vétérinaire, mais voilà quelle serait... si j'étais aux responsabilités, voilà quelle serait ma préoccupation. Mais pour moi, là où pour moi c'est important, c'est que, voyez-vous, j'ai aussi entendu qu'on voulait donner la majorité politique aux jeunes de 16 ans. Mmh. Tout le monde dit, ah ben ça va réconcilier comme ça les jeunes, etc. Je vais vous dire, parce que ça fait partie, le sujet que vous me posez, la réflexion doit être plus
profonde. Attend de voir justement.
On croit que c'est par des mesurettes qu'on règle le problème des Français. Je vais vous dire, les Français aujourd'hui sont préoccupés. Le travail, et on sait bien qu'en dépit des chiffres de la croissance qui remontent, il y a des disparités, il y a des pans entiers, il y a des activités qui sont difficiles. Je pense à l'hôtellerie, je pense à la restauration. On attend le travail, on attend un minimum de sécurité, on attend un minimum d'ordre, on attend un minimum en matière de développement durable et de climat. Voici quelles sont les préoccupations de nos concitoyens. Et évitez de me poser trop de questions sur des mesurettes qui sont sans intérêt pour le débat. Et c'est pour ça que les gens se désintéressent.
On reviendra entendre l'avis justement.
Oui, mais les gens ont été quand même choqués de ces propos. Hein, j'insiste.
Hein. Énormément.
À un moment donné, moi je veux bien.
Justement, il a dit pas de malentendus sur l'abattage. Chaque religion peut avoir ses traditions. Mais personne ne peut s'affranchir des règles de bien-être animal, en particulier de l'étourdissement. Il était obligé de faire cette.
De l'étourdissement, non mais. Est-ce qu'il sait comment ça se passe dans les abattoirs?
On continue d'en parler. 19h33, avec un peu de retard, le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
C'est avec Michel Taube, le fondateur de l'Opinion Internationale. Bonsoir mon cher Michel.
Bonsoir mon cher Adil, et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM. Les propos avec vos interlocuteurs me donnent très envie de participer au débat.
Ah ben écoutez, soyez le bienvenu, vous êtes chez vous ici, hein. Vous êtes éditorialiste, donc vous êtes chez vous en quelque sorte. Mon cher Michel, vous avez décidé de parler de Facebook qui change de nom, justement, pour quelle raison? Dites-nous tout.
Alors, à la fois pour une raison sérieuse, mais aussi parce que c'est le week-end du 1er novembre.
Vous avez raison.
Demain, c'est Halloween, donc les enfants...
Un peu de légèreté.
Vont faire un peu la fête. Et donc, en fait, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a décidé de changer le nom de sa société. Alors, c'est pas le réseau social qui va changer le nom. Facebook va rester Facebook. Mais il a décidé de changer le nom de sa société, qui va donc regrouper Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux.
Vous nous parlez de la maison mère.
Voilà. La maison mère va s'appeler Meta. Meta comme métaverse. C'est-à-dire, c'est un petit peu la nouvelle grande, c'est le nouvel grand Eldorado que nous proposent les champions d'Internet, c'est-à-dire des sortes de mondes virtuels dans lesquels nous pourrons échanger avec d'autres personnes et dans lesquels Zuckerberg a décidé d'investir des milliards et des milliards. Donc moi, je voulais profiter de l'occasion de cette information, de changement de nom de Facebook en Meta, société Meta, pour dire que tout simplement, il y a un phénomène nouveau sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, même sur Netflix, qui est une addiction incroyable, une addiction maladive, une addiction qui pose maintenant d'énormes problèmes de nos jeunes, de nos enfants, des jeunes générations, et qui prend des proportions absolument hallucinantes. Je ne sais pas si vous avez suivi le film Squid Game.
Oui, qui fait polémique d'ailleurs.
Voilà, qui rencontre un succès énorme dans le monde entier, qui est un film sud-coréen et qui est ultra violent et qui pose d'énormes problèmes comportementaux aux jeunes qui le regardent. Et je voudrais mettre en avant une information qui est passée assez inaperçue en France et qui, à mon avis, est l'avenir en partie de ce qui va arriver sur les réseaux sociaux. C'est que quand bien même Facebook changerait de nom, quand bien même les réseaux sociaux essaieraient de modérer leurs excès, on va pas pouvoir échapper à traiter cette suraddiction de réseaux sociaux comme des addictions extrêmement dangereuses. Et d'une part, certains défendent l'idée de démanteler Google, démanteler Facebook, démanteler Twitter, qui ont pris tellement de pouvoir sur nos vies sociales, sur nos enfants, sur nos vies politiques et démocratiques, qu'on va pas pouvoir les laisser faire. Et il y a un exemple qui vient de Chine. Alors évidemment, la Chine, c'est pas un exemple de démocratie.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Auquel je voudrais qu'on se compare. Mais les Chinois ont quand même pris une décision incroyable. Il y a un mois, vous connaissez les sports, vous savez, les sports de combat sur Internet.
Oui.
Où nos enfants passent des dizaines d'heures à s'affronter sur des réseaux sociaux, sur Twitch et sur d'autres réseaux sociaux. Les autorités chinoises ont décidé du jour au lendemain d'interdire aux enfants d'aller jouer sur ces sports de combat sur Internet, pendant la semaine et ils ne peuvent faire que pendant 3 heures le week-end.
Eh bien, parce que ça les rendait fous, complètement fous.
C'est-à-dire que le régime, certes autoritaire, et ça ne peut pas être un exemple pour nous, mais que les autorités chinoises décident d'interdire l'accès aux jeunes, aux réseaux sociaux les plus pratiqués par eux, c'est pourquoi ils font ça. Ils font ça parce qu'ils ont observé que les jeunes étaient complètement addicts et commençaient à avoir des comportements déviants extrêmement graves. Et donc, moi, je reviens à Squid Game, je reviens à Facebook. Squid Game aux États-Unis, pendant le week-end de Halloween, ils ont commencé à développer des produits dérivés incroyables et il commence à y avoir des écoles qui interdisent les déguisements Squid Game pour les enfants parce qu'ils ont peur des comportements de nos enfants. Et donc, si vous voulez, je pense que, puisque l'élection présidentielle arrive en France, il va falloir débattre comment on fait pour réguler Facebook et les autres. Alors, Facebook, ils peuvent changer de nom, ils peuvent s'appeler Meta. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir réguler tout cela. Et comme on le fait pour d'autres addictions, on le fait pour la drogue, on le fait pour l'alcool, on le fait pour la cigarette, il va falloir réguler les réseaux sociaux parce que sinon, nos enfants, ça va être un avenir. Quitter le droit de vote à 16 ans ou 18 ans, ça sera des personnes complètement ramollies qui n'auront pas une capacité de jugement parce qu'ils auront été bouffés par les réseaux sociaux.
Eh bien, vous lancez l'idée. J'espère que la réflexion sera retenue. Et puis, on en fera, évidemment, nous aussi, débat ici. Merci, Michel Taube. Je vous souhaite un bon week-end.
Bon week-end et bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM.
Merci à vous. Prenez soin de vous et à vendredi prochain.
Les informés, le Quad 9.
19h38, dernière pub et on se retrouve tout de suite après, vous savez quoi, avec Sabrina Nouri, avec Maître Beaujour, avec Amit Chriette, pour continuer de débattre sur les deux sujets qui ont retenu notre attention. A tout de suite, ne bougez pas.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h42, si vous venez de nous retrouver, les informés, justement avant de retrouver le long week-end qui nous attend avec Samira Nouri. Samira Nouri, t'as vu, il fallait que je le fasse. Ça arrive à tout le monde, je vous rassure tout de suite, tout le monde en prend pour son grade. Merci. Sabrina Nouri, élue donc, d'opposition sur la ville de Brétigny-sur-Orge. Elle représente la France insoumise. Maître Jean-Claude Beaujour, que je ne présente même plus, omniprésent dans les médias. Non, c'est ça. Vous êtes
la grande star des médias.
Non, je pense que l'intérêt, c'est de partager avec nos concitoyens les idées et faire débat. Parce qu'effectivement, moi, je refuse les affrontements de personne. Va y avoir un débat tout au long de cette période. Et moi, je veux convaincre le maximum de nos concitoyens de nous rejoindre.
Faudrait-il avoir un programme pour ça aussi ?
C'est vrai. Et enfin, Amit Chriette, justement, qui est avec nous. Merci. C'est tout de suite le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Ça continue, je voudrais donner la parole à Hamid Chriette, qu'on n'a pas entendu, sur Yannick Jadot, qui, après évidemment avoir dit favorable à la suppression de l'abattage rituel avant de nuancer ses propos. Écoutons cet extrait chez notre confrère Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Écoutez.
Vous voulez créer un ministère du bien-être animal ?
Oui.
Le bien-être animal, qui est essentiel. Alors tiens, avant de parler de la chasse, j'ai simplement une question sur le bien-être animal. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression de l'abattage rituel ?
Oui.
Oui ?
Ah oui, sans ambiguïté.
Sans ambiguïté.
Sans ambiguïté. Vous savez, on a...
Viande cachère ou halal ?
Vous le savez, je veux qu'on sorte de l'élevage industriel. Cet élevage où les animaux ne voient jamais le plein air.
Oui.
C'est absolument abominable pour les animaux. C'est abominable pour ceux qui y travaillent. Ça nous fait une alimentation qui est pas de bonne qualité. Franchement, il faut en sortir pour avoir des paysans dans nos campagnes et des vaches qui sont à la
plus
pâture.
Plus de viande cachère, voilà.
C'est la même chose pour les abattoirs. C'est la même logique. On a concentré les abattoirs. Les gens qui y travaillent, ils travaillent dans des conditions abominables. Les animaux qui y meurent dans des conditions abominables. Et pour moi, l'abattage rituel, qui est, on nous renvoie à des traditions, j'entends ces traditions, mais pour moi, il n'y a aucune tradition qui justifie de faire souffrir les animaux.
Justement, avant de donner la parole à Maître Chriette, je vous ai vu commenter Sabrina Nouri.
Oui, bien sûr, parce que là, dans ses propos, on a l'impression qu'il est en train de tout mélanger. entre le bien-être animal, l'abattage rituel, l'abattage industriel. Ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Non, ce n'est pas la même chose. Nous, nous avons fait des propositions très claires là-dessus, sur le bien-être animal, bien avant l'abattoir, puisque quand ils arrivent à l'abattoir, c'est leur destination finale. Mais que se passe-t-il avant? Elle est là, la question. Mais aujourd'hui, la pédagogie, c'est comme pour l'alcool. C'est comme pour les stupéfiants. D'accord? Il faut de la pédagogie. Aujourd'hui, on le sait, manger trop de viande, c'est pas bon pour la santé. Manger mieux et sainement, c'est mieux. Donc forcément, ça va réduire les abattoirs industriels. Ça va être dans le bienfait des animaux.
Qu'est-ce que vous dites, Ahmed Chriette?
D'abord, l'abattage rituel, c'est un abattage qui est sans étourdissement. D'abord, faut le savoir. Faut juste aller au ministère de l'Agriculture français et écrire abattage rituel et vous aurez tous les détails. J'invite M. Jadot d'ailleurs à se renseigner un peu et à lire un peu les dérogations qui ont été prescrites par les successions des gouvernements.
Pas faux.
D'abord, le Conseil de l'Europe a validé ça, l'Union européenne, à travers ses résolutions. Et de plus, il y a une dérogation. L'abattage rituel touche aussi à la liberté de conscience. Il y a monsieur, nous avons un avocat ici qui pourra vous parler de ça. Aujourd'hui, quand monsieur Jadot parle de tradition, ce sont des obligations religieuses, ce ne sont pas des traditions. Il faut distinguer à la fois entre la tradition culturelle et religieuse, mais ça, je laisse ça aux théologiens, et les obligations religieuses. Dans le judaïsme ou en islam, il y a ce qu'on appelle le halal et le kasher, qui sont des obligations religieuses, où effectivement il y a un étourdissement, etc., de l'animal, et donc un abattage rituel. Donc je pense que M. Jadot est en train de se mêler les pinceaux, et c'est en réalité un faux débat, un faux sujet. La vraie question aujourd'hui, c'est la question de l'industrialisation, la qualité de la viande, la question du bio, et l'investissement sur les agriculteurs aujourd'hui. Comment peut-on aujourd'hui créer une agriculture bio, une agriculture saine, et comment lutter contre l'industrialisation
à tout va.
Ça, effectivement, pour M. Jadot, ça serait assez compliqué de proposer un programme. Et je pense que là, il faut aujourd'hui travailler sur ces sujets-là. Comment donner du pouvoir d'achat des agriculteurs quand on sait aujourd'hui que les agriculteurs jettent leur lait, etc. Non, le pouvoir d'achat aujourd'hui est amoindri. Sur la question de la bourse aussi aujourd'hui. Hein, on sait qu'il y a une grande spéculation dans le marché, par exemple, de la viande. Le halal, par exemple, en France, représente 5 milliards. 5 milliards de recettes pour l'État français.
C'est colossal.
Donc, quand il parle effectivement du halal, ça remplit les caisses publiques. Hein, faut pas oublier.
Produire en France.
Donc, voilà. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est pas une question de minorité ou de majorité. Les gens, aujourd'hui, en France, ont le droit de manger ce qu'ils veulent manger aujourd'hui.
Allez, dernier sujet qui a retenu notre attention, justement, puisque c'est la dernière ligne droite. La polémique qui enfle, et ça concernera Sabrina Hanouri, justement. Ça vous fait sourire parce que vous appartenez au même parti. C'est Jean-Luc Mélenchon, votre chef, qui fait cette déclaration. Éric Zemmour est représentatif des scénarios culturels du judaïsme. Qu'est-ce qu'il a voulu bien dire par là? C'est-à-dire ne rien changer à la tradition et être opposé à la créolisation.
Oui, non, mais attendez, je pense que là,
grosse polémique.
Mais oui, mais comme
il
d'habitude, on sort les.
Yannick Jadot, pardonnez-moi Sabrina, il a été contraint de s'expliquer sur les propos d'Éric Zemmour.
Non, mais attendez.
Et de se justifier,
Non, mais attendez. Effectivement, ça s'est passé hier, hein, donc ce matin, voilà. Encore une fois, une belle polémique qui monte, qui enfle par les détracteurs. Qui ont trouvé une brèche où s'engouffrer, ils y sont allés.
Bah c'est lui qui a déclenché.
Mais attendez, on sort les phrases de son contexte. On sort les phrases de son contexte. On sort les phrases de son contexte. On sort tout de son contexte. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite.
Oui.
Mais c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est ce qu'on essaye de nous faire dire. C'est faux. C'est faux, d'accord? Si vous regardez le parcours de cet homme depuis le début, il le fait. Évidemment.
Vous le connaissez bien pour avoir travaillé sur des questions précises auprès de lui.
Mais tout à fait, la loi contre le séparatisme, le seul sur les plateaux à dire que cette loi était abjecte, le seul à défendre, oui, les musulmans, et oui, c'était le seul homme politique sur les plateaux à défendre les musulmans. Pourquoi? Parce que lui, il défend toutes les injustices, quelles qu'elles soient. Les musulmans, les chrétiens, les juifs, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion, on défendra toujours. Donc, moi, je suis désolée. Aujourd'hui, on essaye de le.
Ça a été le seul à refuser de revenir sur BFM.
Bon, il a dit oui.
Ah, mais il va revenir. Oh, ben si c'est que ça, franchement.
Non,
attendez. Mais oui, il va revenir, évidemment. Mais attention, il ne faut pas lui coller donner cette étiquette de tout.
Donc
tout.
Il s'est mal exprimé.
Voilà, donc il va l'exprimer.
Il s'est mal exprimé alors.
Bah alors peut-être, monsieur peut-être Mélenchon qu'il s'est mal exprimé, peut-être, bon, peut-être. Mais en même temps, la question, excusez-moi, monsieur, attendez, la question, c'est limite pour réduire, c'est est-ce que un juif, monsieur Zemmour, est antisémite? Non mais franchement, non mais attendez, le niveau journalistique aujourd'hui
alors,
pour.
Écoutons.
Non mais attendez.
Alors, maître Beaujour.
Je comprends très bien l'embarras de madame, parce que...
Aucun embarras, monsieur, nous sommes clairs.
Est-ce que je peux terminer?
Allez-y.
Je comprends votre embarras, parce que le propos, je le trouve surprenant. Surprenant pour quelqu'un qui veut être président de la République. Vous vous rendez compte? Président de la République, faire ce type de déclaration.
Alors les déclarations de monsieur Zemmour qui souhaite être président de la République, personne ne commente. Ah bah attendez.
La première chose que je vais vous demander, c'est de ne pas m'interrompre, je ne vous ai pas interrompu. La deuxième chose, je ne suis pas le défenseur de monsieur Zemmour. Et c'est toute votre erreur. Parce que vous faites un débat de personne et vous pouvez... Je tiens à vous dire que je suis le premier à dire que je ne partage pas le plus grand nombre de ses idées.
Bon, c'est dit.
Pour autant, nous parlons de la déclaration de M. Mélenchon. Je trouve surprenant, pour ne pas dire scandaleux, qu'un candidat à la présidentielle s'attaque à un autre candidat à la présidentielle sur des thèses de ce type-là.
Et donc, il s'est mal exprimé, alors.
Mais il s'attaque pas,
mais précisément, mon propos n'est pas de savoir, et je me moque de savoir s'il est antisémite ou pas. Mon propos liminaire, c'est de dire, je ne comprends pas, et je condamne ce type de déclaration. Je suis désolé, madame.
Mais qu'a-t-il dit, alors, dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous condamnez? Qu'est-ce que vous condamnez? Allez-y, dites-moi.
Attendez, vous voulez que je vous relise la
phrase? Non, dites-moi, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Parce qu'a priori, personne ne comprend ce qu'il dit.
Il a dit...
J'ai l'habitude de faire des citations.
Non, mais relire simplement. Mais qu'est-ce que vous comprenez dans sa citation? Peut-être que c'est là l'erreur.
Attendez.
Peut-être que là, c'est là l'erreur d'incompréhension.
Précisément, parce que vous êtes une responsable.
En attendant, vous retrouviez la déclaration.
Je l'ai. Vous dites exactement. Alors, monsieur Zemmour est représentatif des scénarios culturels du judaïsme, ne rien changer à la tradition et être opposé à la créolisation. En toute franchise, madame. Moi, je ne suis pas en train de dire que monsieur Mélenchon est raciste ou pas, et ça n'est pas mon sujet.
Mais il l'a dit. Il a dit que monsieur Zemmour était raciste et il a été condamné pour ça.
Je peux terminer. Je ne suis pas en train de dire que monsieur Mélenchon est raciste ou pas, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, une France fracturée, une France qui se déchire, une France qui se polarise, ce type de propos est surprenant et c'est dangereux.
Bon, Amit Chriette.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets.
C'est M. Zemmour qui est dangereux, monsieur. Ne confondez pas.
Attendez, mais moi, je ne pas. Là, on me demande de réagir.
C'est M. Zemmour qui est dangereux par ses propos, pas M. Mélenchon.
On est d'accord. S'il vous plaît, on arrive au terme de cette émission.
J'ai déjà réagi au propos de
M. Zemmour. S'il vous plaît. Amit Chriette, s'il vous plaît, maître Beaujour.
J'essaye un peu de prendre de la hauteur dans ce débat-là. Non, mais c'est pas possible. C'est une critique pour personne, mais. Je pense qu'il y a plusieurs sujets sur cette question-là. C'est que est-ce que M. Mélenchon critique le judaïsme en soi?
Pas du tout.
Non mais attendez,
elle vous dit non.
Je vous réponds, monsieur.
Il y a une tradition française de l'anti-judaïsme.
Mais je vous réponds, monsieur.
De Voltaire.
Je vous réponds. Si tu es les origines des idées d'extrême droite de Zemmour dans le judaïsme, c'est faux.
Mais comme M. Zemmour a le droit de critiquer l'islam.
C'est pas ce qu'il a dit.
Comme M. Zemmour a le droit de critiquer l'islam. Moi, je suis pour la liberté d'expression, personnellement.
Oui, mais c'est pas ce que Mélenchon dit.
Non mais attendez.
Elle vous a dit, c'est pas ce qu'il a dit.
J'ai une vision anglophone. S'est-il exprimé maladroitement? Ça, c'est peut-être. Un autre débat.
Oui. Donc, mais il le dit, il s'est peut-être voilà. dit. Déjà, il y a le peut-être. Jean-Luc déjà, Mélenchon, maître Beaujour, il dit s'être mal exprimé.
Contre, là où ah je reçois, voyez, c'est bien ce que je vous voilà. disais.
Pardon, il l'a dit, Sabrina Nourry. Hein. Jean-Luc Mélenchon dit s'être mal exprimé.
Par contre, là, je rejoins Jean-Claude. Aujourd'hui,
il l'a dit, Sabrina Nourry.
Aujourd'hui, la France se retrouve effectivement une société fracturée, une société qui se polarise, une société où tous les débats sont assujettis à polémique. Aujourd'hui. Et où, effectivement, l'espace intellectuel et idéologique est sous le prisme d'un parti politique. Exemple, vous avez cité avec M. Jadot. M. Jadot parle de l'abattoir parce qu'il est dans le parti des Verts. Les Insoumis, c'est la même chose. Sur des sujets. Or, aujourd'hui, nous avons besoin d'une union, d'une unité pour la France.
Mais là, on n'est pas prêt d'avoir cette ligne. Maître Beaujour et Sabrina Nourry.
C'est ça, c'est qu'on est dans l'idéologie.
Ils vous plaignent
de l'idéologie.
Ils vous plaignent.
Je comprends. Vous voyez, je vais être très bref. Je vais être très bref. Je comprends que mon contradicteur soit gêné. Mais là encore, c'est la raison pour laquelle je ne suis que pour une chose. La France, que les hommes politiques aient en tête, mais vraiment en tête, que la France est un pays laïque, voilà. Que l'état de droit doit prévaloir et que nous devons traiter nos concitoyens sur la base, on doit faire campagne sur la base des idées et non pas sur les combats de personnes.
Merci Maître Beaujour. Sabrina Nourry, en quelques secondes, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon dit s'être mal exprimé. Vous dites quoi, vous ?
Eh bien, il a donc.
Vous répondez quoi à tout cela ?
Mais attendez, tout simplement, s'il s'est mal exprimé, donc il a fait une réponse aujourd'hui. Vous pouvez la lire, elle est publique, d'accord ? Elle est publique. Elle est publique. Donc, il s'est exprimé. Il a dit ce qu'il avait à dire. Cet homme n'est pas antisémite pour autant. Cet homme a des idées et il les défend. Et il les défend pour le bien commun de tout le monde.
Merci à Sabrina.
Et je dis simplement qu'il y a un programme qui va sortir et vous pourrez en débattre aussi.
On va débattre.
Mais bien sûr, j'y compte bien.
Merci à Sabrina Nourry. Merci à Maître Jean-Claude Beaujour. Merci à Amine Chriat. À la réalisation, c'était Yanis. Bilal Nagman, tout de suite dans Time Sport. Je vous souhaite un excellent long week-end. Nous, on se retrouve mardi puisque lundi, c'est jour férié. Portez-vous bien, prenez soin de vous, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.